de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
De La société féodale de Marc Bloch, dont la lecture l'aura durablement marqué, Georges Duby disait « Si j'avais à conseiller un seul ouvrage à des historiens débutants, ce serait celui-ci. » En 1978, dans les discours de l'histoire de Raymond Bellour et Philippe Venot, Georges Duby ne manquait pas de rappeler qu'il avait été formé à l'école des annales Lucien Febvre et Marc Bloch et qu'il était par conséquent convaincu de la nécessité d'ouvrir l'histoire aux autres sciences sociales et réciproquement. Il disait son propre intérêt pour l'anthropologie, la biologie, l'éthologie, la psychanalyse et soulignait l'obligation pour l'historien d'être aux aguets. Il expliquait également le devoir qu'il y avait, selon lui, à répondre à l'engouement toujours plus grand du public pour l'histoire en rendant accessibles les travaux des historiens à la plus grande audience possible. Ce qu'il ne manqua pas de faire lui-même, notamment par des émissions de télévision. Marc Bloch aura aussi marqué Georges Duby dans sa propre écriture. Le souci et le talent littéraire de Duby, qui auront ouvert à l'histoire du monde médiéval un large lectorat, on les entend ici par la voix de Jean Topard lisant quelques extraits de ses œuvres, notamment les magnifiques premières pages du temps des cathédrales sur lesquelles s'ouvre l'émission.
Les discours de l'histoire. Une émission de Raymond Bellour et Philippe Venot. Dernière émission, aujourd'hui l'historien, Georges Duby. Avec Georges Duby et la voix de Jean Topard.
Très peu d'hommes. Des solitudes qui, vers l'ouest, vers le nord, vers l'est, s'étendent, deviennent immenses et finissent par tout recouvrir. Des friches, des marécages, des fleuves vagabonds, et les landes, les taillis, les pacages, toutes les formes dégradées de la forêt que laissent derrière eux les feux de broussailles, et les ensemencements furtifs des brûleurs de bois. Ici et là, des clairières, un sol conquis cette fois, mais qui pourtant n'est qu'à demi dompté, des sillons légers, dérisoires, se contracer sur une terre rétive des outils de bois traînés par des bœufs maigres. Dans cet espace nourricier, de grandes taches vides encore, tous les champs que l'on laisse en jachère un an, deux ans, trois ans, dix ans parfois, pour que, naturellement, dans le repos, se reconstituent les principes de leur fertilité. Des huttes de pierre, de boue ou de branchage, réunies en hameaux, qu'entourent des haies d'épines et la ceinture des jardins. Parfois, au sein des palissades qui la protègent, la demeure d'un chef. Une halle de bois, des greniers, les hangars aux esclaves et le foyer des cuisines à l'écart. De loin en loin, une cité. Mais ce n'est pénétré par la nature rurale que le squelette blanchi d'une ville romaine, des quartiers de ruines que contournent les charrues, une enceinte tant bien que mal réparée, des bâtisses de pierre qui datent de l'Empire, converties en église ou en citadelle. Près d'elles, quelques dizaines de cabanes où vivent des vignerons, des tisserands, des forgerons, ces artisans domestiques qui fabriquent pour la garnison et pour le seigneur évêque des parures et des armes. Deux ou trois familles de juifs, enfin, qui prêtent un peu de monnaie sur garde. Des pistes, les longues files des corvées de portage, des flottilles de barques sur tous les cours d'eau. Tel est, l'Occident de l'an 1000. Rustique, il apparaît, face à Byzance, face à Cordoue, très pauvre et très démuni. Un monde sauvage, un monde que cerne la faim.
Nous venons d'entendre les lignes qui ouvrent le temps des cathédrales de Georges Duby. Jusqu'ici, c'est un historien d'aujourd'hui qui nous a aidés à situer, à comprendre la figure d'un historien d'autrefois, de Raoul Glaber au XIe siècle jusqu'à l'historien journaliste de l'histoire immédiate. Aujourd'hui, avec Georges Duby, nous rejoignons le point où nous allons demander à l'historien d'aujourd'hui d'essayer de parler de lui-même, d'éclairer la situation présente du métier et de la fonction d'historien. Le hasard a voulu, Georges Duby, que le tout récent numéro de L'Arc qui vous a été consacré nous ait permis d'ouvrir cette série d'émissions à partir des lignes finales de votre article « Le mental et le fonctionnement des sciences humaines ». Vous y parlez de la nécessité, un peu nouvelle pour l'historien, de faire l'histoire des historiens, d'interroger par conséquent les savants, ajoutez-vous. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui justifier cette nouvelle exigence, cette sorte d'urgence à la fois intellectuelle et existentielle ?
Bien, c'est une certaine modestie à l'égard de notre métier, je pense, n'est-ce pas ? Nous avons progressivement découvert que l'objectivité de la connaissance historique était mythique, n'est-ce pas ? Et que toute histoire est écrite par un homme, et lorsque cet homme est un bon historien, il y met beaucoup de lui-même. Et nous avons d'autre part découvert que le champ de l'histoire se déplaçait au cours des âges, que la fonction de l'histoire dans une société se transformait, et que il fallait absolument considérer dans le travail des historiens qui nous ont précédés pour goûter au maximum et profiter au maximum de ce qu'ils nous avaient apporté, il fallait considérer essentiellement leur environnement et leur propre personnalité. Et je suis tout à fait séduit par l'intention que vous avez eue de présenter précisément une sorte de galerie de portraits d'historiens, puisque vous épousez au fond cette initiative que nous avons eue nous-mêmes de faire de l'historiographie une des disciplines essentielles de l'histoire d'aujourd'hui.
Quand vous parlez de cette perte, de ce sentiment, disons, de la relativité de l'objectivité du discours historique, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte, disons, de paradoxe dans la mesure où l'histoire moderne, de par ses méthodes, de par son développement, etc., s'est en un sens acheminée vers une histoire de plus en plus précise, de plus en plus, qu'on pourrait appeler de plus en plus objective, je veux dire, avec ses nouvelles conquêtes méthodologiques?
Oui, bien sûr, n'est-ce pas? Les historiens ont évidemment essayé d'affiner leurs outils de manière à saisir la réalité du passé d'une manière de plus en plus scientifique. Et il y a l'immense développement de l'histoire sérielle, de l'histoire quantitative, l'utilisation des machines, des computers, qui permet un archivage des traces que nous conservons du passé, beaucoup plus précis et beaucoup plus utile. Il n'en reste pas moins, n'est-ce pas, que quelle que soit l'efficacité des méthodes que nous employons, nous avons un matériau qui est de meilleure qualité, mais ce matériau, nous l'utilisons d'une certaine manière. Et le discours historique est de toute façon une création dans laquelle la sensibilité, l'art d'écrire, joue un rôle, à mon avis, considérable. Et cette élaboration du matériau meilleur, n'est-ce pas, est faite de toute façon d'une manière subjective.
Et comment, disons, cette problématique, alors, s'est peu à peu découverte à vous, en quelque sorte? Alors, au niveau, là, de votre propre expérience d'historien.
Oh, écoutez, il faudrait à ce moment-là que je vous raconte un peu ma vie, n'est-ce pas? J'ai commencé, bien sûr, il y a déjà beaucoup trop d'années, par travailler dans la ligne, au fond, de ce qui restait de l'histoire positiviste. Et mes premiers travaux ont touché essentiellement aux structures matérielles des sociétés. J'ai commencé par essayer d'écrire une histoire de l'économie rurale du Moyen Âge, puisque cette époque est dominée essentiellement par la campagne, et que si l'on voulait connaître le comportement des hommes à cette époque-là, il était absolument indispensable de savoir comment on cultivait les champs et ce que ces champs rapportaient. Mais assez vite, dans le développement de mes recherches, je me suis rendu compte qu'une société ne s'expliquait pas uniquement par le matériel, mais qu'il intervenait de manière aussi déterminante, et parfois plus déterminante, des facteurs qui relèvent du mental, n'est-ce pas, de l'idée, de la représentation idéologique. Et actuellement, n'est-ce pas, je me suis assez écarté ce qui concerne le soubassement matériel de l'édifice social, et je m'intéresse davantage à ce qui est d'ailleurs beaucoup plus impalpable, c'est-à-dire aux idées et à ce que les gens ont dans l'esprit et qui gouvernent leur comportement. Ce qui m'a fait d'ailleurs, si vous voulez, glisser d'une certaine part du matériau, des sources, n'est-ce pas, vers une autre. N'est-ce pas ? L'histoire, lorsque j'ai commencé mon travail d'historien, était assez méprisante à l'égard de ce qu'on appelle les sources narratives, n'est-ce pas ? Et les historiens s'appliquaient essentiellement à des documents qui leur paraissaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus crédibles, c'est-à-dire les documents d'archives, les chartes, les livres de comptes, et tout ce qui constitue d'ailleurs essentiellement la matière de cette histoire quantitative dont nous parlions. Et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait ce qu'on avait négligé, c'est-à-dire les récits, les œuvres des historiens du passé, constituaient une source d'information extraordinaire sur les mentalités, sur les idéologies, et ce matériel-là constitue ma pâture essentielle actuellement. J'essaye de relire dans un autre esprit ce que l'histoire positiviste du XIXe siècle avait utilisé pour construire une histoire événementielle.
Vous en arrivez à prononcer dans cet article auquel j'ai fait référence un mot assez important, disons, au niveau de ce déplacement, c'est le mot de fiction. En ce sens que vous dites que les témoignages de ces historiens qui, donc, eux, construisent une certaine fiction, vous semblent être de même nature, si l'on peut dire, que ces documents, a priori beaucoup plus crédibles, que sont justement les chartes, les actes notariés, etc., sur lesquels s'appuyait une histoire qui se voudrait plus scientifique, que vous renvoyez, elle aussi, à cet univers de fiction.
Oui, n'est-ce pas? Je pense, en effet, c'est peut-être un excès de scepticisme, mais je considère, tenez, par exemple, moi, je suis historien du XIe, du XIIe siècle, et j'essaye d'essayer de voir comment fonctionnait l'organisme social à cette époque-là. On peut essayer d'étudier ce fonctionnement à partir des actes de donation ou des comptes rendus de procès qui nous restent de cette époque. Et nous avons l'impression, là, si vous voulez, d'atteindre des témoignages qui sont absolument bruts, et de pouvoir ainsi retrouver, repérer quels étaient les rapports entre les hommes, la classification sociale, tout cela. Et qui nous paraît, par conséquent, Ce qui nous amène à considérer que les historiens de ce temps-là ont décrit de la société était déformé par leur propre idéologie. Mais si l'on regarde de très près, on s'aperçoit que ces comptes rendus de procès ou ces actes de donation sont aussi le produit d'une sorte d'élaboration du réel par le mental, et que finalement, il donne une image de la société qui n'est pas plus vraie que celle que peuvent donner ceux qui ont considéré l'histoire comme une intrigue, comme un récit, comme une fiction.
Mais que devient alors, disons, dans cet emboîtement de fiction, l'historien lui-même ? Quelle devient sa position par rapport à un réel qu'il est censé reconstituer de l'histoire des sociétés ?
Eh bien, je pense, je parlais de modestie tout à l'heure, je pense que l'historien ne doit pas se méprendre, n'est-ce pas ? Ce qu'il énonce lorsqu'il écrit l'histoire, c'est son propre rêve, n'est-ce pas ? Évidemment, entre l'histoire et le roman, il y a cette grande différence, c'est que la fiction historique doit quand même s'accrocher à quelque chose qui a été, qui a vraiment été. Mais je pense que la démarche n'est pas tellement différente, n'est-ce pas ? L'historien raconte une histoire, n'est-ce pas ? Mais une histoire qu'il forge avec... un certain nombre d'informations concrètes. Ne me faites pas dire que je rejette la méthode historique qui a été façonnée avec tellement de rigueur par nos prédécesseurs du 19e et du 1er 20e siècle. Au contraire, il faut absolument rester dans ce souci, n'est-ce pas, de critique à l'égard de l'information. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ce matériau critiqué, n'est-ce pas ? Nous l'utilisons, et nous l'utilisons avec la plus grande liberté, en nous rendant parfaitement compte que nous n'atteindrons jamais à une vérité objective.
C'est un peu ce double jeu que vous avez en un sens joué dans un livre comme Bouvines, où d'un côté vous donnez, disons, toutes les sources au maximum de leur extension, et ou de l'autre, vous avez dans l'écriture même du livre reconstitué l'événement comme un événement de fiction, un peu.
Oui, parce que ce que j'ai voulu faire dans Bouvines, c'est essayer de montrer d'abord comment l'événement, dans une certaine mesure, avait été créé par la relation même qui en a été faite, n'est-ce pas ?
Parce que,
par les historiens eux-mêmes, par les témoins. Si vous voulez, j'ai commencé par montrer ce qu'était l'histoire immédiate de Bouvines, n'est-ce pas ? Une sorte de reportage qui a été fait sur l'événement, mais en indiquant d'une manière extrêmement précise que l'événement avait été créé par ceux-mêmes qui l'avaient raconté. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui ne prend corps et qui ne prend sa qualité même d'événement que parce qu'on en a parlé.
Oui, c'est ça, là, au sens où Pierre Nora, alors pour l'histoire immédiate, lui n'a pas arrêté de nous dire qu'à cause des nouveaux moyens d'information du XXe siècle, il y avait une sorte d'extension, justement, de la création de l'événement lui-même par les médias.
C'est cela, mais c'est vrai aussi au XIIIe siècle. N'est-ce pas ? Bouvines a été créé par ces médias qui étaient les chroniqueurs. Et ce que j'ai voulu voir ensuite, n'est-ce pas, c'est comment la mémoire et l'oubli intervenaient pour modifier cet événement, et comment l'événement était récupéré successivement par chaque génération et utilisé au service, c'est vrai, d'une certaine idéologie, d'une certaine conception de ce que pouvait être le passé.
La survie de Bouvines repose sur des traces de cette espèce, multiples et qui se complètent d'origines diverses, de tous âges, et jusqu'à cet obélisque de 6 mètres de haut qui fut érigé en 1863 à portée du champ de la bataille. La liste de tous ces documents est établie. Il y a beau temps qu'on les interroge. Dans les deux dernières décennies du XIXe siècle et dans les 35 premières années du XXe, ils furent spécialement sollicités par les meilleurs médiévistes de France, d'Allemagne et d'Angleterre, en particulier entre 1881 et 1888, et en 1913-1914. La véracité de ces témoignages fut alors très rigoureusement éprouvée. Tout a donc été dit, et bien dit, sur le déroulement du combat et sur le réseau d'intrigues dont il est à la fois l'aboutissement et le départ. Ce qui dispense ici d'examiner une nouvelle fois, dans le même esprit, ces sources d'informations et de reprendre l'enquête. Il n'en sortirait rien de neuf. Que le lecteur veuille bien consulter ces livres, dont la plupart sont anciens, mais instructifs, et presque tous de lecture plaisante, qu'il se réfère, s'il est pressé, aux pages 166-202 du tome 3 de la Grande Histoire de France, dirigé par Lavis, qui parut en 1901. Ce résumé est fort bon. Les seules retouches nécessaires quant aux méthodes de combat, quant à l'estimation des effectifs, devront être prises à l'étude de Verbruggen. C'est un regard différent que je voudrais porter sur les traces de l'événement. Pour l'histoire positiviste, celle dont je viens de dire un mot et qui n'est en rien négligeable, la bataille de Bouvines s'inscrivait expressément dans la dynamique d'une histoire du pouvoir. La journée formait comme un nœud plus volumineux que d'autres sur une chaîne continue de décisions, de tentatives, d'hésitations, de succès et d'échecs, tous alignés sur un seul vecteur, celui de l'évolution des États européens. Une telle vision assignait au métier de l'historien deux objectifs. Établir d'abord ce qui s'était vraiment passé à cet endroit le 27 juillet 1214. Prendre pour cela les documents, comme le ferait un juge d'instruction, y dépister le mensonge, en faire surgir la vérité, confronter les témoins, réduire leurs contradictions, et pour reconstituer les maillons manquants, trier toutes les hypothèses et choisir les mieux assurés. Après cela, situer le fait vrai à sa place exacte, en sa position à la fois résultante et causale, entre ses tenants et ses aboutissants. Deux buts, à vrai dire, inaccessibles, puisque, nous le savons bien, tous ceux qui assistent à une bataille, fussent-ils en plus haute éminence, sont des Fabrices. Il ne voit que bousculade confuse. Nul n'a jamais perçu, nul ne percevra jamais, dans sa vérité totale, ce tourbillon de mille actes enchevêtrés qui, dans la plaine de Bouvines, se mêlèrent inextricablement ce jour-là, entre midi et 5 heures du soir. Et puisque les causes et les effets de cette bataille sont, au plein sens du terme, innombrables, insaisissables pour cette raison, dans leur respective efficience. Or, l'effort pour s'approcher de ces deux buts obligeait à l'abstraction, c'est-à-dire à traiter l'événement de 1214 comme un événement d'aujourd'hui. Tendue dans une volonté obstinée d'exactitude ponctuelle, cette histoire qui se voulait scientifique négligeait en fait de se garder assez bien du contresens et de l'anachronisme. Car, attentive à la seule action politique, à ses motivations et à ses conséquences, elle inclinait inconsciemment à voir un peu Philippe Auguste comme Corneille voyait Pompée, c'est-à-dire comme un désir, comme une volonté affrontée à d'autres volontés et à d'autres désirs dans l'immutabilité de la nature humaine. Elle ne remarquait pas tous les glissements subtils qui avaient insensiblement modifié en Europe au cours de 20 générations le comportement des gens et la signification de leurs actes. Ces modifications très lentes, qui, par exemple, interdisent de tenir pour un cuirassier de Reichshof un enfant, le chevalier de Bouvines. C'est la raison qui me conduit à regarder cette bataille et la mémoire qu'elle a laissée en anthropologue. Autrement dit, à tenter de les bien voir, toutes deux, comme enveloppé dans un ensemble culturel différent de celui qui gouverne aujourd'hui notre rapport au monde.
Comment envisagez-vous cette relation, disons, de dépendance complémentaire, d'entrelacement entre les différentes sciences humaines et l'histoire qui se trouve elle-même au carrefour de ces sciences ?
Bien, je dois dire ici que vraiment j'ai été formé dans l'esprit de Lucien Febvre et de Marc Bloch, c'est-à-dire du bon moment des annales, où les annales représentaient justement cette nécessité d'ouverture de l'histoire sur les autres sciences de l'homme. Et je pense que l'historien doit être aux aguets de tout ce qui se passe autour de lui. En ce qui me concerne, actuellement, c'est certainement l'anthropologie qui est pour moi la science la plus incitative. Il me semble avoir compris la société médiévale mieux, n'est-ce pas, après avoir lu ce que des ethnologues ou des ethnographes ont rapporté de sociétés extra-européennes. Je suis aussi extrêmement attentif à ce qui se passe dans le domaine du biologique ou de l'éthologique, n'est-ce pas, des sciences du comportement et des rapports entre justement le corps, le mental et les conduites, si vous voulez. Et évidemment, à l'égard de tout ce qui se passe dans le domaine de la psychologie ou dans les recherches parfois inquiétantes dans le domaine de la psychanalyse.
Oui, j'étais par exemple frappé que ce mot de rêve, de fantasme revienne assez fort et en liaison justement avec cette position d'énonciation même du sujet historique.
Mais oui, mais je pense que tout cela est très, très déterminé d'abord par les progrès de la sémiologie, n'est-ce pas, les relations entre le signifiant et le signifié, mais également avec ce que nous sentons maintenant, n'est-ce pas, du poids que l'inconscient peut exercer sur notre propre comportement. Et il est évident que ce que j'énonçais à la fin de cet article de Larc que vous avez cité est très directement redevable à cette conscience que j'ai de la manière dont se pose le problème des rapports entre le discours et ce qui se passe dans l'énonciateur de ce discours, dans le sujet. Et cette subjectivité de l'histoire, elle est, je pense, tout à fait entretenue chez moi par cette expérience.
Nous avons vu apparaître dans cette série d'émissions progressivement l'idée d'histoire nationale, l'idée d'histoire de France. Disons qu'à partir de Pasquier, avec ses recherches de la France, et puis avec Mézeray et tout ça, jusqu'à Lavis, on voit se développer l'histoire de France. Vous qui avez dirigé une histoire de France, si vous ne l'avez pas écrite vous-même entièrement, comment l'historien d'aujourd'hui se sent par rapport à cette idée d'histoire nationale qui a hanté tellement le développement de l'historiographie ?
Bien, je pense que là, nous abordons, monsieur, une question importante qui est celle de la fonction de l'histoire. À quoi sert l'histoire ? C'est pas, d'abord, je pense que l'histoire est un divertissement, n'est-ce pas ? L'historien a toujours écrit pour son propre plaisir et pour le plaisir des autres, n'est-ce pas ? Mais il est sûr aussi que l'histoire a rempli une fonction qui a varié, n'est-ce pas, pour Raoul Glaber, dont j'ai parlé dans une des émissions premières, cette fonction était, je l'ai dit, d'interprétation et d'interprétation morale, n'est-ce pas. Il s'agissait, en racontant ce qui s'était passé autrefois, de montrer aux hommes comment il fallait agir. Bien. Cette fonction de pédagogie morale, remplie par l'histoire, elle s'est prolongée très longtemps, puisque Michelet, lorsqu'il enseignait ici au Collège de France, avait une chair d'histoire et de morale. Bon, cette morale collective et politique, puisque lorsque, quelque temps après Glaber, les États en Europe se sont reconstitués, les historiens se sont mis essentiellement au service de cet État, au service du prince. Et cette morale est devenue une morale politique et une morale étatique. Et par conséquent, n'est-ce pas, au XIIe siècle, les historiens sont au service d'un prince féodal et ils écrivent par exemple l'histoire de la Normandie. Bon. Et puis, lorsque l'unité française se constitue sous l'autorité monarchique, à ce moment-là, on écrit l'histoire de France. Bon. Et il est évident que, au grand moment de l'histoire positiviste, le sentiment national, et je dirais même chauvin, était à son apogée. Et par conséquent, l'histoire de la vie, c'est une histoire éminemment nationale, et elle est d'ailleurs livrée à tous les niveaux de l'édifice culturel. Il y a la grande histoire de France qui est proposée aux élites, et puis il y a les toutes petites histoires pour l'école primaire où l'on apprend qu'il faut être fier d'être français et qu'il faut éventuellement défendre le pays et même peut-être aller reconquérir l'Alsace-Lorraine. Bon, nous n'en sommes plus là. Et d'ailleurs, je me souviens, lorsque j'ai été sollicité de diriger l'histoire de France dont vous parlez, nous nous demandions si ça n'était pas déjà anachronique, et je pense que ça l'était déjà un peu. Et il y aurait des gens qui auraient souhaité, et il y en a beaucoup qui souhaitent encore, que l'on écrivît une histoire de l'Europe, par exemple, mais d'une certaine Europe, voyez-vous. Alors que cet énorme changement que nous vivons, qui est celui d'une sorte de planétarisation des connaissances, fait que dans la production historique actuelle, on arrive justement à, d'une part, si vous voulez, à renoncer, à détruire le travail historique à l'intérieur des cadres des États tels qu'ils existent, et à considérer au contraire l'histoire très large de toutes les civilisations du monde dans leur rapport. Et il y a un autre mouvement d'ailleurs au contraire qui est inverse, qui est celui d'une résurgence d'une histoire très locale, n'est-ce pas? Vous voyez le succès que peuvent avoir des histoires régionales en France, rejoignant cette volonté d'autonomie des provinces. Le succès que peuvent avoir des histoires d'une ville, d'une toute petite communauté, n'est-ce pas ? Il y a, je pense, une remise en question actuellement de ce que peut être la fonction de l'histoire. Est-ce que vous pensez, monsieur, moi, c'est moi qui vous pose une question maintenant, que l'histoire peut encore avoir une fonction morale ?
J'aurais un peu de difficulté à y répondre, en ce sens que la fonction d'éducation est une chose qui s'est elle-même tellement complètement déplacée au cours de la révolution scolaire et universitaire de ces 30 dernières années que je pourrais qu'en douter. Mais ça me conduit, moi, à vous reposer une autre question, puisqu'on a été forcé par cette évocation de l'histoire de France de se poser un peu le problème de l'institution, disons, d'un certain pouvoir, d'une certaine place de l'historien, de vous demander comment l'historien se sent au fond aujourd'hui par rapport à cette notion même d'institution.
Eh bien, moi je dois vous dire tout de suite que je suis un historien professionnel, c'est-à-dire que c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, l'histoire aussi, n'est-ce pas ? Et si vous voulez, je pense qu'il faut, et ça Michel de Certeau l'a dit fort bien, n'est-ce pas ? Il faut considérer justement que le travail historique est la plupart du temps mené au sein d'institutions. Ça peut être l'institution universitaire, mais il y a aussi d'autres institutions qui ne sont pas moins prégnantes, n'est-ce pas ? Je pense, par exemple, à ces institutions que constituent les maisons d'édition ou à ce que constitue également la radio, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous sommes sollicités de répondre à des appels qui nous viennent d'un éditeur ou d'un producteur de télévision. Et nous travaillons très souvent sur commande, n'est-ce pas ? Ça, je le disais à l'instant, c'est pas par goût que j'ai fait une histoire de France, mais parce que un certain jour, des gens sont venus me demander de diriger quelque chose comme cela. Et si j'osais, je vous ferais même un aveu, c'est que dans ma vie, je n'ai écrit au fond que deux de mes livres d'une manière libre. Ma thèse de doctorat, parce que j'en avais choisi moi-même le sujet, et puis ce livre qui paraîtra, j'espère, cet hiver, sur les trois ordres de la société que j'ai décidé, moi, d'écrire, qui ne m'a pas été commandé. Mais tous les autres, n'est-ce pas ? C'était des sollicitations.
C'est intéressant, vous savez que Roland Barthes est exactement dans la même situation. Il n'a pratiquement jamais écrit que des livres dont il a le sentiment qu'ils étaient des livres de commande, même si bien sûr il y investissait le plus profond de lui-même.
Et c'est là justement, je pense que, je le dis à mes amis qui sont éditeurs, quel est le pouvoir stimulant, n'est-ce pas, de ces intermédiaires entre le savant et son public. N'est-ce pas ? Ces commandes, je les ai acceptées parce que elles répondaient à mon vœu. N'est-ce pas, un jour, plutôt une nuit, à minuit, j'ai reçu un coup de téléphone d'un homme que je n'avais jamais vu, qui s'appelait Albert Skira, et qui m'a dit « Cher ami, venez après-demain à Genève, j'ai une proposition à vous faire ». Et il m'a proposé, évidemment, d'écrire cette série « D'où est sorti le temps des cathédrales ». C'est une sorte d'un essai de sociologie de l'art. Or, il y avait des années que je souhaitais faire cela. C'est pas cette espèce de rencontre entre la sollicitation de l'éditeur et le goût, le désir de l'historien. Pour Bouvines, c'est un peu différent. C'est pas... Bouvines, la série, les 34 ou 46 journées qui ont fait l'histoire de France, histoire événementielle, moi, ça me paraissait vraiment pas du tout dans la direction de mon travail. Et je me souviens d'un de mes amis qui... ayant appris que j'avais accepté cela, a dit « Oh ben zut, alors c'est Duby qui va faire ça ». Mais oui, mais une fois qu'on m'a donné cette idée, évidemment j'ai pris la chose d'une manière tout à fait subjective, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je ne suis pas du tout rentré dans le cadre, et j'ai fait quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire ce dont nous avons parlé, voir comment l'événement se crée et comment il évolue dans la mémoire collective.
Ce que vous dites là pose au fond deux ordres de questions assez complémentaires. C'est d'une part comment l'historien se sent aujourd'hui dans la société par rapport à un certain pouvoir qu'il est censé détenir au niveau même alors de l'institution, dans l'institution universitaire par exemple, que quelqu'un comme vous représentez parfaitement. Et d'autre part comment il se sent par rapport à ce qu'on pourrait appeler la mode historique, c'est-à-dire ce déferlement qui, depuis quelques années, fait de l'historien un petit peu, disons, l'équivalent de ce qu'ont été les grandes modes intellectuelles de ces 10 ou 20 dernières années en France.
Oui, si vous voulez, moi je crois que, enfin je parle pour moi, moi personnellement, je ne suis plus du tout, je n'ai jamais été d'ailleurs, mais je ne suis absolument pas saisi par ce rêve d'être le Michelet entraîneur de la jeunesse, si vous voulez, et c'est-à-dire de proférer une sorte de message qui va mobiliser les foules. Je ne pense pas. Mais à l'intérieur de l'institution universitaire, je suis persuadé que l'histoire qui, à un certain moment, a eu l'impression d'être un peu à la traîne des autres sciences humaines, reprend, si vous voulez, la confiance en elle-même et... je pense que l'historien peut apporter une collaboration décisive aux autres disciplines, à l'anthropologie ou à la sociologie. En ce qui concerne alors, si vous voulez, cette inflation du goût historique, je suis l'un de ceux, et d'ailleurs tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec... la position que je prends, mais je suis un de ceux qui pensent que notre devoir est de mettre à la disposition de l'auditoire le plus large ce que nous découvrons. Je pense que nous devons, n'est-ce pas, nous adresser à un public plus étendu que celui de nos amphithéâtres et qu'il faut absolument que l'historien collabore, si vous voulez, à cette tâche essentielle qui est d'entretenir dans notre société l'esprit critique, n'est-ce pas ? Avec toutes ces réserves, si je dis que je suis sceptique à l'égard de l'objectivité, eh bien, je pense en effet que c'est rendre service aux gens et de leur faire sentir d'une manière très précise, n'est-ce pas, que toute information est subjective et qu'il doit la recevoir comme telle et par conséquent la critiquer.
Comme si l'esprit critique alors était la part de rêve, disons, absolument nécessaire à chaque sujet dans la société où il se trouve.
Je le pense aussi.
Plus que tout autre, le Michelet bête sablé de Claude Mettrain me touche. Ce regard triste sur les empires perdus, remuer sans cesse les cendres du passé, s'exténuer à les réchauffer. Finalement, les bras tombants, découvrir combien la condition de l'homme est pitoyable, percevoir que le temps est linéaire et que ce n'est point aux lumières qu'il conduit, qu'il n'existe pas de résurrection, que l'unité tragique, dont on prend mieux conscience avec l'âge, trouve accomplissement dans la mort, non point dans un impossible retour aux enfances, et que le désir est perdu de communiquer, se brise inexorablement sur le silence.
C'était Les Discours de l'Histoire, une émission de Raymond Bellour et Philippe Venot. Dernière émission, aujourd'hui l'historien, Georges Duby. Avec Georges Duby et la voix de Jean Topard. Chef opérateur du son, Pierre Brault. Collaboration technique, Hélène Kotler. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 août 1978. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.